ozone, O3, gaz, 3 mm d'épaisseur, environ 300 dopson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Bonjour. Donc c'est l'histoire d'un gars donc, qui rentre chez lui donc, le soir, il est fatigué, et il se dit, tiens, je vais prendre la rue donc, où il y a des prostituées. Donc il prend la rue où il y a les prostituées, la première, il lui dit, qu'est-ce que je peux avoir pour 20 euros ? Elle lui dit, barre-toi, faut rien, 20 euros, on n'a rien de nos jours. Bon, bah, donc il va donc, à une deuxième prostituée, même chose. La troisième lui dit, va-t'en, va voir plus bas, il y a peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. Bon, bah, il s'en va, donc il va plus bas, mais il trouve personne. Donc, bon, du coup, donc, il décide de rentrer chez lui, donc dans la rue, là. Et dans la soirée avec sa femme, il se dit, tiens, donc si on faisait donc si on remontait la rue pour faire un peu de marche, bah, sa femme dit, lui, bien sûr. Donc il se freine bras dessous, et remonte la rue où il y avait les prostituées. Et là, il y a une prostituée qui lui dit, t'as vu ce que t'as trouvé pour 20 euros?
Débrouille, MacGyver. Casse-tête chinois, recyclage, politique, électronique, mécanique, obsolescence programmée, réfection, réparabilitude, bricolage, magazine, environnement, apprentissage, économie, écologie, pouvoir d'achat, autonomie, matières premières, entraide, solidarité, réseau d'Emerdenzizic, hobby, transformation, marchandises, échange, deuxième vie, division internationale du travail, astuces, lobbying, jetables, do it yourself. Comme vous l'aurez probablement compris, le thème de notre émission aujourd'hui est le système D. Mais qu'est-ce que le système D ? Familièrement, le système D, c'est l'art de se débrouiller dans un domaine avec son ingéniosité et son sens logique, mais sans matériel adéquat ni soutien particulier. Exemple, pour finir le mois sans trop de soucis, il est un spécialiste du système D pour dénicher de bons plans dans tous les magasins. Pour évoquer cette question, nous recevons aujourd'hui Vincent Bobek, du Hacker Lab, ouvert à Évreux, dont l'inauguration a eu lieu le 8 octobre.
Au sommet aujourd'hui, une rubrique à braque en kit. Des lectures de tests bricolés à l'attirer du point de mot. Des musiques bien agencées. Une recette made in France. Un narvalo récupéré de justesse. Une interview préfabriqués et usinés à l'avance de nos laboratoires secrets, une minute de Paul à recycler dans la poubelle rose, un micro-trottoir en mode Mac MCJV. Pour vous servir aujourd'hui, Stéphane, François, Rémi, Didier, Jean-Roger, Sandrine, Timothée et Yacouba.
Un petit texte, système D. J'ai le système, oui, j'ai, entre parenthèses, précision, achat itréma T. Moi, c'est le système dédramatique. Je suis pas Manuel, mais je veux bien Manuela. Pas Manuelito, je suis pas homo. Hélas pour les homos. J'ai changé une ampoule, mais je ne suis pas une lumière. J'aime les bons plats, mais je ne cuisine pas. Jamais. Sauf les êtres qui sont en moi. Quoique c'est plutôt eux qui me cuisinent. Dans le fond, là, c'est pas encore le système D de dramatique. Vous inquiétez pas, il arrive. J'aime me suicider, mais une fois me suffirait. Là, c'est le système D de dramatique. J'aime ma psy qui s'y frotte, s'y pique. PS, je respecte ses enfants. PSS, je la respecte, elle aussi, ma psy. Dans le fond, comme chantait je ne sais plus qui, vous les filles du 9-3, on vous respecte trop. L'embêtant, ce qui est dramatique, c'est que je ne vois que les difficultés. Je ne vois pas les facilités. J'aimerais, et là c'est du pur système D, dramatique, oui, j'aimerais qu'on me fasse une lobotomie. C'est un échappatoire facile. J'aimerais bien, bip bip, censurer, ma psy. Enfin, vous comprenez où est mon drame actuellement. Ma psy est une bonne psy, c'est pourquoi j'ai précisé actuellement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pourvu que ma psy intelligente m'oriente vers le sexe en tant qu'aboutissement avec plénitude et tout autant sereinement. PS, je respecte ses enfants. Système D, dramatique, j'aime pas et ne sais pas draguer, mais alors pas du tout. Alors système D pour débile, D pour du con, ou pour débrouille-toi tout seul, fous-nous la paix. Des fois, système D pour déprime, ou système D pour chasser au dahu. Rigolez pas, j'en ai eu trois hier encore. Du con sûrement, débile, c'est à vous de juger. Bon d'accord, aussi j'attends vos nombreux appels. Et tout ce que je viens de dire, et que je n'aurais pas osé dire il y a un mois, je remercie pour cela de loin Evan, Anna et leur maman Béa. Petit message, un peu de gaieté dans ce monde de brut. Je suis grand-oncle et je vais l'être encore deux fois. Chouette, adieu des primes. Je crois que j'attends par ma psy que j'aime qu'elle me pousse vers le sexe, la drague, d'autres. Dans le fond, rien que du naturel. Amour impossible, alors chercher d'autres amours. Un challenge, quoi. Aimer sa psy, c'est cliché, mais d'ici Zazie, oubliez tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Bon, j'espère que ma psy va me dégourdir système D, mais boudou que je l'aime ma psy, pour mieux progresser. Il faut que je pallie à mes affects pour ma psy. Ce qu'il y a de dégueulasse, et c'est vrai, c'est vache, car si j'étais riche, ma psy, je crois bien que ce serait déjà fait, le bip bip censuré. Vous, auditeurs, auditrices, qu'en pensez-vous du pognon? Ça achète tout, non? Chacun, chacune à son prix. Moi, par exemple, je peux ouvrir ma gueule. Politique, sociale, humanitaire, sexe, drogue, rock'n'roll. Tout est achetable, même moi. D'ailleurs, je me vends à la plus offrante, mais attention, je suis un solitaire. Et un solitaire, c'est cher, très cher. La cotation en bourse est ouverte à vos téléphones, mesdames.
C'était Y'a de la haine, tiré de l'album Système D d'Erita Mitsuko. Et nous recevons maintenant non pas Vincent Boubec, comme on l'a dit en introduction, mais Vincent Karuba, dit Boubac. Alors d'abord, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes de la structure Hacker Lab.
Exactement.
Et toute récente.
Toute récente, oui, vu qu'on a fait notre inauguration le 8 octobre. Et puis bah voilà, maintenant c'est ouvert, donc c'est très bien.
Bah, je vais commencer par vous demander alors comment on accède à Hacker Lab.
Alors, comment on accède géographiquement? C'est simple, c'est situé dans la vieille zone industrielle de Netreville, donc c'est pas loin du rond-point qui est pas loin d'un certain magasin de plantes, et qui est en face de Batterie 27. Mince, j'ai dit une marque.
On va en dire d'autres.
En gros, il y a une espèce de pâté de hangar où dedans il y a Silence, il y a Chronopièce. Silence, c'est une espèce d'entreprise, enfin, c'est une entreprise qui loue du matériel audio-vidéo. Le logo, c'est un point d'exclamation. Et en fait, il faut rentrer dans le lotissement de ce hangar. Il faut contourner le point d'exclamation et aller derrière. Il y a plein de rideaux métalliques, ça fait un peu zone d'échange de drogue. Mais c'est par là.
Donc voilà. C'est rue de Cocherelle.
C'est 1118 rue de Cocherelle, exactement. C'est vrai que là, j'ai fait l'explication dans le mauvais sens. En gros, voilà. Et puis, voilà.
Quel est votre statut juridique? Une association, société?
Alors, on est une association loi 1901.
Oui.
Voilà. Bah, c'est tout.
Donc, à but non lucratif.
À but non lucratif, exactement.
Alors, qui travaille dans l'association? Quels sont les métiers ou les parcours qu'on y trouve?
Bah alors, travailler à proprement dit, on n'a pas d'employés, vu que pour l'instant, on n'a pas encore les fonds. On est vraiment en mode système D, justement, même au niveau des trésoreries, on va dire. Mais au niveau des profils des fondateurs, en fait, on est trois à la base. Il y a un quatrième qui s'est rajouté, qui est du coup un peu notre premier adhérent historique. Alors, il va y avoir Romain Guay et moi-même, on est informaticien de formation, mais on a toujours bricolé depuis tout petit, donc on fait aussi de la mécanique, de l'électronique et ce genre de choses. C'est juste qu'à un moment, il fallait choisir une branche, donc on a pris la plus belle et la plus solide. Et puis il y a.
C'est un petit clin d'œil à la stratégie de l'échec, ça.
Pas du tout. Et il y a aussi Vincent Sortel qui, lui, est dessinateur projeteur, du coup, calculateur et concepteur de pylônes. Donc lui, c'est purement mécanique. Et du coup, notre premier adhérent historique qui s'appelle Alain Richardin, qui est un gars du coin aussi, qui est cinéaste de formation, qui lui fait l'atelier vidéo du Hacker Lab, parce que du coup, c'est pas uniquement un atelier de bricolage, c'est aussi un endroit où on peut venir créer sous toutes ses formes, que ce soit de l'art plastique standard avec de la peinture, des crayons, etc., des toiles, de la sculpture, ou de l'art, on va dire, plus style média, faire de la musique, c'est pas encore le cas, ou faire de la vidéo. Voilà, donc il est responsable de la partie vidéo.
Dans toutes les réalisations qu'on peut faire dans votre association, y a-t-il des restrictions?
Alors, des restrictions, il n'y a pratiquement aucune restriction, si ce n'est le fait qu'il ne faut pas fabriquer d'armes, quoi.
Oui.
Globalement. Et après, ça va être des restrictions au niveau des règles de sécurité basiques. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire, sinon on risque de se faire mal, voire de mourir, donc ça c'est interdit. Et toutes les machines qui demandent un petit peu de doigté et de formation, justement, les gens n'ont pas le droit d'y accéder tant qu'ils n'ont pas reçu une formation ou du moins une approbation de notre part. Parce que s'il y a un tourneur fraiseur de 20 ans de métier qui arrive et qui dit « Bon, moi, je suis tourneur fraiseur, on ne va pas lui donner une formation, on va juste vérifier que c'est un tourneur fraiseur et puis c'est bon, quoi. » Du coup, voilà, c'est tout.
Donc, vous avez de grosses machines?
Alors, on a quelques grosses machines. On n'a pas encore toutes les machines qu'on aimerait avoir, mais effectivement, au niveau des grosses machines qu'on est en train de remettre... en marche, parce que globalement on les a récupérés d'un don gracieux de la CGTI, qui est l'entreprise qui emploie Vincent Sortel. Ils nous les ont donnés, on est venu les chercher, du coup on est content, mais elles sont toutes câblées pour un réseau électrique différent, et du coup nous on est en train de les recâbler. Et parmi ces machines, on a donc une grosse perceuse à colonne qui fait 2 mètres, qui doit peser dans les 300 kg, on a une scie à ruban qui doit peser dans les 400 kg, on a un gros tank, donc un tour à meuler géant qui doit peser pareil... voire même pas loin de la tonne. On a une grosse scie débiteuse pour découper du rail métallique. Elle pèse très très lourd, elle pèse 1,4 tonne. Donc voilà, on a des gros trucs. Et voilà, on est en train de la remettre en marche. On aimerait par la suite avoir une fraiseuse universelle, un tour et ce genre de choses. Donc voilà, on veut pouvoir faire aussi bien du petit bricolage, de l'informatique, de l'électronique, de la mécanique, de la menuiserie, des arts, sous toutes ces formes. Mais aussi, si on veut faire des trucs beaucoup plus sérieux qui impliquent d'avoir du matériel un peu plus lourd, on s'équipe pour ça, quoi.
Et d'où vient le nom de l'association Hacker Lab? Parce que Hacker, on pense aux pirates informatiques.
Eh bien non, vous vous trompez.
Ah,
c'est faux.
Corrigez-moi.
Alors justement, Système D, c'est... C'est marrant parce que si on va sur la page Wikipédia de SystemD, car oui, je suis un bon élève, j'ai été voir sur la page Wikipédia, on voit que la traduction anglaise, c'est hack, c'est un peu une fausse traduction, parce qu'en fait, hack en français, ça veut dire bidouille. Mais on va dire que l'équivalent de l'état d'esprit SystemD, c'est l'esprit hack. Donc hack, c'est pas uniquement les hackers informatiques, qui effectivement ont donné les pirates informatiques, parce qu'à la base, c'était des gens qui détournaient les systèmes pour essayer de leur faire faire autre chose, et forcément, il y a des gens qui font ça pour leur profit. Donc ça devient des choses pas très bien. Mais du coup, l'esprit hacker, c'était pas tant le fait de faire du mal via l'informatique que l'esprit de détournement, de penser en dehors du cadre et ce genre de choses. Du coup, hacker, c'est exactement ça. Après, c'est un jeu de mots avec heure, parce qu'il y a pas mal de choses dans le coin où il y avait heure. Et ça nous faisait marrer, donc on l'a fait au second degré. Et puis lab, bah, parce qu'on est un Fab Lab. Et aussi parce qu'on a un hackerspace, donc c'est un peu un mélange de tout ça. Quoi. C'est Fab Lab, hackerspace, hacker lab. Ça allait bien, quoi. Puis en plus, les initiales, c'est H-E-L, donc on peut faire plein de jeux de mots avec.
Donc ce terme Fab Lab, ça veut dire quoi exactement ?
Alors, Fab Lab, c'est un mot valise, contraction de fabrication et de laboratory. Du coup, ça vient des États-Unis, ça a été créé par un professeur du MIT qui s'appelle, je vais me gourer comme d'hab, Neil Gershenfeld, je crois. Et en gros, le but, c'était de faire un atelier collaboratif où n'importe qui puisse venir, puisse porter son projet, puisse venir apprendre en dehors du cadre strict de l'éducation standard. Et du coup, voilà, c'est, tu viens, tu as quelque chose à faire, il y a des gens qui sont là, qui ont de l'expérience, ils t'expliquent, et il y a un atelier, il y a plein d'outils, tu peux apprendre à t'en servir. Si tu as envie de te réorienter professionnellement, tu peux le faire. Si tu as envie de créer une start-up parce que tu as des idées, mais que tu n'as pas le matos chez toi ni la place, et qu'en plus c'est salissant, bah, tu peux essayer de le faire ici, ça sert un peu à tout. Quoi. Mm-hmm.
François, tu poses la question ? Non, tu me laisses.
Dans ce cas-là, je vais la poser, puisque tu ne veux pas. Vous faites vous-même ou vous apprenez à faire à tous les adhérents ?
Alors, je n'ai pas très bien compris.
Est-ce que vous-même, vous réalisez ce que les adhérents ont envie de réaliser ou ce sont eux-mêmes qui réalisent et vous supervisez ?
Ok, d'accord. En fait, les deux, parce qu'à la base, si on a créé un Fab Lab, c'est qu'on était les premiers clients de ce genre d'endroit et il n'y en avait pas à Évreux. Et dans un périmètre autour non plus, il n'y en avait pas. Donc on s'est dit, bon, bah, on va en créer. Hein, parce qu'on avait nous-mêmes des besoins de fabriquer des choses. Et que, vu que, comme je te disais tout à l'heure, on a toujours été vaguement dans un atelier, Romain et moi. Et puis Vincent, et lui, il est dans la conception carrément. Donc voilà. On s'est dit, il nous faut un Fab Lab. Bon, bah, on va essayer de le monter. Donc on fait les deux.
Et donc les adhérents peuvent arriver avec des idées. Ou s'ils n'ont pas d'idées, vous pouvez leur proposer des réalisations.
Ah ouais, les deux, hein, y a vraiment pas de cadre. Il y a quelqu'un qui va venir avec une idée aussi précise que... Alors comme on a eu sur Facebook, quelqu'un qui nous a dit « Moi, j'aimerais bien faire un scintillateur. » Alors du coup, on savait même pas ce que c'était un scintillateur. Il se trouve que c'est un appareil de mesure dont le fonctionnement m'est encore obscur parce que c'est pas trop mon domaine. Mais ça peut être des idées aussi précises et aussi pointues que ça que quelqu'un qui vient qui dit « Eh ben moi, j'aimerais bien apprendre la programmation. Est-ce que vous pouvez me montrer la programmation ?»« Eh ben oui, on va organiser un atelier de programmation. Alors ça commencera comme ci, comme ça. » Ou quelqu'un qui dit « Bah moi, j'ai une table. Ma maison, elle est pas exactement rectangulaire. Elle rentre pas dans le coin. Est-ce que je pourrais venir pour la découper ?» Oui, pas de problème. Donc voilà, c'est un peu n'importe quel type de projet, quoi.
D'accord.
Je veux bien rebondir sur comment ça s'organise un petit peu cette idée d'atelier. C'est-à-dire, est-ce que vous attendez qu'il y ait beaucoup d'adhérents qui demandent, voilà, autour d'une même thématique. Vous parliez de la programmation, j'imagine que c'était la programmation informatique.
Exactement.
Est-ce que vous attendez qu'il y ait beaucoup d'adhérents qui soient réunis autour de cette idée-là avant de mettre en place l'atelier, ou ça peut commencer pour une ou deux personnes et puis après on voit en fonction de la demande si dans l'année on en refait.
Bah en fait c'est un peu les deux, c'est-à-dire que là c'est encore le début donc c'est pour l'instant uniquement de la théorie, mais on a prévu de mettre en place d'ici très peu de temps des ateliers qui couvrent on va dire les bases assez génériques des domaines qu'on maîtrise nous, donc informatique, électronique, mécanique, conception assistée par ordinateur, impression 3D, tout le bazar, menuiserie, mais ça sera toujours des choses assez génériques. Mais si on voit qu'il y a une demande pour quelque chose de plus précis, là, ça va pas forcément venir de nous. Si on en a un besoin et qu'on pense que c'est intéressant, on va le faire, mais on va pas faire un atelier de, j'en sais rien, de soudure, de grillage pour fabrication de sculptures d'ourson, parce que c'est un peu trop précis. Mais si quelqu'un nous le demande et qu'il y a suffisamment de demandes, on le fera, quoi.
Alors, je vous propose maintenant d'écouter un extrait d'un micro-trottoir qu'on a réalisé dans les rues d'Évreux, où on a demandé aux badauds hébreuxiens, avez-vous déjà utilisé le système D ?
Vous avez vous-même déjà utilisé le système D ?
Bah oui, je fais les foires à tout. Oh non, pas moi.
Dans beaucoup de cas. Hein.
Ah bon ?
Système D, on se débrouille sur tous les points. Hein. Surtout,
par exemple,
au travail.
À
A priori, je peux pas trop vous répondre tout de suite, mais oui, ça m'arrive de me débrouiller comme je peux.
Toute la journée. Toute la journée. Avec les achats que l'on fait, avec plein de choses.
J'en ai pas comme ça à l'esprit, mais oui, probablement, oui, bien sûr, oui. Soit les relations, soit, voilà, quoi faire jouer, hein. Sortir un peu, je sais pas comment dire, du système traditionnel.
Oui. Pour se débrouiller.
Pour un achat, pour un truc comme ça, quoi, effectivement.
Pas pour fabriquer ou pour.
Pour fabriquer forcément, pour une réparation éventuelle, oui, pour. Oui, voilà, oui, bien sûr.
Non, pas du tout.
Jamais ?
Non.
Même pour la voiture ?
Non.
Bon, premièrement, moi je suis handicapé, alors. Et puis ma petite voisine, je lui fais des courses. Si j'ai besoin de faire. Mettons du papier par an, on essaie de se débrouiller, ou même moi je décolle le papier, et puis système D, c'est ça, le repassage, enfin pour les femmes, c'est ça.
Alors, je vais vous demander si vous avez des réactions sur ce qu'on vient d'écouter.
Eh bien, c'est marrant, parce que ça met en opposition un peu deux publics. Il y a des gens qui pensent que du coup le hack, le système D, c'est quelque chose qui est l'apanage de certains experts élitistes qui vont maîtriser un truc très très pointu et que oh là là c'est trop compliqué, je pourrais jamais mettre les mains dedans. Et il y a d'autres personnes qui voient justement le système D comme étant le système je me démerde. Et du coup c'est marrant parce que c'est exactement le genre d'opposition qui montre qu'il y a, deux types de personnes. Je vais me perdre dans ce que je vais dire parce que je sens que c'est pas construit. Il y a deux types de public, et en fait pour nous le système D c'est vraiment l'état d'esprit de base de réussir à se débrouiller, d'aller le plus vite d'un point A à un point B pour trouver une solution en pensant pas forcément dans le cadre. Alors du coup là les gens du micro-trottoir ils ont compris ça en mode on faut se démerder, mais du coup c'est vrai que ça va aussi plus loin dans le sens où plutôt que d'acheter quelque chose qui coûte cher du style il faudrait que je change de table de salon, oui mais attends les meubles ils sont en merisier, du coup faudrait aussi que je change la commode, mais oui mais il y a une promotion sur le guéridon, oui mais si j'ai un guéridon j'ai une chaise, et du coup on digresse, on se perd, et en fait finalement on avait juste besoin d'une table. Le système D ça va être j'ai besoin d'une table, est-ce que j'ai une porte dont je me sers pas, ouais j'ai deux tréteaux, voilà j'ai une table.
Et pourquoi s'embêter à fabriquer ou à réparer ?
Pourquoi s'embêter à fabriquer ? Parce que c'est intéressant, parce que ça va toujours beaucoup plus convenir à nos besoins propres. On pourra se faire du sur-mesure. Exemple, le mec qui a une maison pas rectangulaire, s'il veut s'acheter un meuble Ikea, ça merde une autre marque. ça va pas convenir. Et parce que du coup aussi, c'est très épanouissant et intéressant si on se rend compte qu'on a de l'emprise sur le réel et qu'on peut se libérer un petit peu de sa prison de consommation et qu'on peut se dire « j'aimerais bien avoir ça, mais j'ai pas les moyens. Mais c'est pas grave, je vais le faire. » C'est quand même vachement plus sympa. Et à réparer, pourquoi ? Pour les mêmes raisons, plus pour le côté portefeuille, là pour le coup, parce que si ta cafetière est cassée, tu la répares, tu te rends compte qu'il y avait juste un condensateur à changer, ça t'a coûté 2€ et 20 minutes de réparation, plutôt que d'aller à Darty, plutôt que d'aller dans une marque de grande distribution d'électroménager et de dépenser 80€ dans une nouvelle cafetière. Et puis c'est intéressant, comprendre le monde qui nous entoure, c'est toujours un avantage et c'est toujours enrichissant.
Alors, on avait prévu de vous demander des exemples de réalisation et j'ai entendu parler d'un skate électrique.
Oui, alors c'est vrai que ce qui nous pousse le plus souvent, c'est l'amusement, même si on fait aussi du pragmatique et du fonctionnel. Mais ce qui nous motive le plus pour faire quelque chose de conséquent, c'est souvent l'amusement. Et du coup, les machins en question, ça va être des machins qui roulent vite et avec lesquels on peut se faire mal. Et du coup, quel est le meilleur moyen de se faire mal pour peu de budget ? C'est de mettre des moteurs électriques sur des choses qui roulent. Alors du coup, on a fait un skate électrique. On a mis deux moteurs électriques de modélisme dessus, avec des cartes électroniques qui viennent aussi du monde du modélisme, des batteries de modélisme, on a modifié tout un tas de trucs, etc. Et du coup, ça fait un skate qui roule à 40 km/h, donc c'est parfait pour aller très rapidement à l'hôpital. On a aussi fait un kart électrique, qui a été fait par Romain, dit Vic, qui s'appelle du coup le Vicart. Et le but, c'était de faire un kart en bois pour moins de 300€, qui soit fabriquable par quasiment n'importe qui avec des outils standards. Et ça roule pareil à 40-50. On a aussi une trottinette qui était le premier prototype, mais ça c'est beaucoup trop dangereux, ça fait des roues arrière. Et voilà, on fait pas uniquement des choses qui roulent, on fait plein de choses, mais c'est vrai que ça c'était, on va dire, les projets qui nous ont donné envie d'avoir un Fab Lab, parce que du coup on a de la place pour tester, on a du matos pour découper des planches, découper des tôles d'alu, ce genre de choses.
Hormis les cotisations des adhérents, quelles sont vos ressources propres? Avez-vous des sponsors, par exemple?
Alors, déjà, faut savoir qu'on est en partenariat avec le GEA. On leur a présenté notre projet en mars dernier, donc c'était il y a un bout de temps. Et en fait, on se demandait par où prendre, parce qu'on n'avait pas de local et on n'avait pas suffisamment de fonds pour trouver un local. Du coup, on allait voir le GEA et on leur a parlé du projet. Ils nous ont dit « Ah, mais c'est vachement bien !» Du coup, on a monté un dossier avec Marie Lorbonnier du GEA, qui nous a aidé à le présenter à ses élus et du coup au conseil d'administration du GEA. Ils se sont dit c'est vachement cool, ils nous ont voté une subvention, donc on a une subvention du GEA qui nous permet d'acheter des matières premières, ce genre de choses. On a la CGTI qui nous a donné des machines, et pour l'instant c'est tout. Donc mis à part ça, les ressources qu'on a, c'est les adhérents, c'est les événements qu'on fait, enfin en tout cas le premier événement qu'on a fait ou qu'on va faire, qui nous permettront d'avoir aussi un peu de trésorerie, et on va aussi se proposer en tant que nous trois fondateurs, pour faire, enfin quatre avec Alan maintenant, pour faire des prestations pour les entreprises à bas coût. Voilà, que ce soit des prestations type vidéo, mécanique, machin, etc.
On évoquait tout à l'heure les ateliers. J'imagine que c'est quelque chose qui va être payant à terme. Voilà, je sais pas, on parlait d'ateliers de programmation. Est-ce que l'idée, en plus de l'adhésion, là on parle un petit peu de sous, mais c'était la question de François, est-ce qu'en plus de l'adhésion, il peut y avoir, je sais pas, un forfait pour les séances, pour les ateliers, enfin voilà, qu'à terme il soit payant, et pas forcément pour se faire un vrai billet, mais aussi peut-être pour la notion symbolique de « je participe, Je m'intègre dans l'association et c'est normal que je paye au bout d'un moment ?»
En fait, c'est pas vraiment ça le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est les gens adhèrent, du coup ils payent une cotisation. Et les ateliers, la plupart des ateliers en tout cas, sont gratuits pour les adhérents. Donc le but, c'est vraiment qu'ils s'impliquent dans l'association en étant déjà adhérents. Et à partir du moment où ils sont adhérents, ils peuvent participer aux formations. Après, on a pensé à un système aussi qui permettrait à n'importe quelle personne qualifiée, professionnelle, etc., de se servir de notre lieu pour proposer une formation où il va recruter ses étudiants, fixer son tarif par étudiant, et dire « bon, moi je vais faire une formation de poterie, j'en sais rien, voilà, ça sera 20 euros par personne pour un samedi après-midi. »
Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'on disait, le système D, pourquoi s'embêter à fabriquer ou à réparer, on avait dit tout à l'heure. Alors, est-ce que, là il s'agit un peu de l'obsolescence programmée, est-ce que tout est réparable, est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut récupérer?
On va dire que la plupart des choses qui nous entourent et dont on dépend sont pour la plus grande part réparables. Il y a des choses qui vont forcément être difficiles, beaucoup plus difficiles à réparer, parce que tout simplement avoir le matériel, ça implique d'être une grosse entreprise avec des machines qui coûtent très cher, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous dites, c'est l'exemple que j'avais déjà sorti à la matinale du matin avec Damien Cavardo, c'était faire un processeur. À moins d'avoir 1 million d'euros dans son portefeuille, ça va être compliqué, quoi. Mais sinon, la plupart des choses qui nous entourent, elles sont assez facilement réparables. On n'aura peut-être pas le même aspect cosmétique qu'à la base, parce que peut-être qu'il y avait une petite finition gloss transparente avec des paillettes dedans et que c'est chiant à faire, mais ça sera fonctionnel, quoi. Que ce soit de l'électronique, mais bref, désolé, je parle beaucoup. Allez-y.
On vous écoute.
Je suis néophyte en informatique, en bricolage. Est-ce que je peux venir quand même dans votre association?
Non, c'est interdit.
Ah, merci.
Oui, bien sûr.
Non.
Est-ce qu'il faut un minimum de base de connaissances ou on peut vraiment partir de zéro?
En fait, si l'envie est là, la technique suivra, parce que le but du Fab Lab, c'est vraiment que les gens viennent et apprennent, même s'ils n'ont jamais tenu un tournevis de leur vie. On leur expliquera comment tenir un tournevis, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre qui pourra leur montrer comment on fait ci, comment on fait ça. Le but, c'est vraiment de pas se mettre de limites. Il faut pas penser que c'est accessible qu'à des gens qui ont déjà des compétences. Au contraire, le but, c'est aussi d'essayer de casser le modèle traditionnel de l'éducation, que des gens puissent venir pour apprendre des choses parce qu'ils n'ont pas pu l'apprendre ailleurs, quoi.
Du coup, c'est à moi de poser une question.
Moi, j'en avais une au passage. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de cette idée de casser un peu le système traditionnel, notamment dans la transmission du savoir. On pense à l'école, etc. Comment ça s'est passé? Vous avez tous été traumatisés par l'école à un moment, et du coup, voilà, c'est le contre-pied. Où c'est important justement plus globalement de sortir de cette façon pyramidale un peu de concevoir l'enseignement et la transmission de savoir.
C'est un peu un mélange des deux. C'est vrai que, en tout cas pour ma part, J'ai été assez traumatisé par, on va dire, l'éducation standard jusqu'à mon lycée. J'en pouvais plus, quoi. C'était insupportable. Je comprenais pas ce qu'on me demandait de faire. On me disait, il faut que tu apprennes ça par cœur. Oui, mais moi, j'aimerais bien pouvoir l'appliquer et pouvoir le mettre en corrélation avec d'autres choses. Non, c'est dans des cases. Tu n'as pas le droit de sortir des cases. C'est interdit de sortir des cases. Et c'est insupportable. Je pense que ça aide pas à être créatif. Ça aide pas à valider ce qu'on a appris, ce genre de choses. Et c'est un peu cet état d'esprit là, le Fab Lab, c'est que il va pas y avoir de séparation avec des murs en parpaing entre les mecs qui font de la menuiserie et les mecs qui font de l'électronique. Si vous avez envie de faire une sculpture en bois qui implique d'avoir des LED qui clignotent dedans et des petits moteurs pour le faire bouger parce que ça vous fait marrer, et ben voilà, vous allez discuter avec le menuisier va vous apprendre de la menuiserie et l'électronicien va vous apprendre de l'électronique. Et c'est vraiment ça le principe. En fait, on croit vraiment que la somme... Alors, je vais encore me foirer avec cette phrase. On croit vraiment que la somme des parties unitaires vaut plus que la valeur de chaque part. Voilà, c'était très mal dit. Mais en gros, voilà, qu'il y a de l'émulsion et de la synergie qui se créent quand il y a plein de gens qui discutent et qui confrontent leurs méthodes de milieux distants, quoi.
Alors, est-ce que en plus de membres de l'association, est-ce que vous cherchez des bénévoles qui auraient déjà des qualifications, alors comme vous êtes informaticien ou autre, et où est-ce que vous pouvez prendre des stagiaires éventuellement ?
Alors des stagiaires, je vous avoue qu'on n'y a pas trop pensé pour le moment, mais des bénévoles, oui, c'est toujours le bienvenu. Les bénévoles sont toujours bienvenus, c'est évident, mais c'est vrai qu'on préfère que les gens viennent adhérer à l'asso, parce qu'il ne faut pas uniquement qu'ils donnent de leur temps pour nous filer un coup de main, il faut aussi qu'ils viennent pour apprendre des choses, pour s'amuser, pour rencontrer des gens, pour participer à la chose, quoi. C'est sympa d'en faire partie aussi, quoi.
Tout ça, est-ce bien légal ? Jusqu'où pouvez-vous aller sans entrer dans l'illégalité ?
Alors là, je crois que c'est un peu le terme de hacker qui nous avait peut-être un peu trompé.
On s'était dirigé peut-être vers une mauvaise piste.
Et puis il y a aussi quand il y a des fabrications d'objets roulants à une certaine vitesse, ça peut éventuellement, enfin il faut rappeler qu'on peut pas rouler avec ça sur la route de façon légale, j'imagine.
Oui, c'est sûr. On fait ça sur des terrains privés uniquement. Non, voilà. Ou juste, qu'est-ce qui peut devenir illégal ? En fait, vu que la mentalité Fab Lab, c'est vraiment justement penser en dehors du cadre, le bon sens paysan et éviter de suivre des procédures tout le temps, ce qui va contraindre les gens et les empêcher de juste réfléchir par eux-mêmes, bah c'est un peu la même chose, quoi. C'est du bon sens. Si quelqu'un se met à créer, j'en sais rien, une machine qui sert à découper les chatons, il va y avoir du bon sens à un moment, il va se dire c'est peut-être pas très légal. Il n'y aura jamais vraiment de quelque chose d'illégal à part si quelqu'un fait explicitement une arme.
D'accord. François ?
Oui, je voulais savoir quels sont les horaires pour venir dans votre association ?
Alors, c'est vrai que ça a beaucoup évolué dernièrement parce qu'on fait des ajustements en fonction de notre état de fatigue. Mais globalement, c'est ouvert le mercredi soir de 18h à 20h, le jeudi soir de 18h à 20h, le vendredi de 10h jusqu'à 12h30 et de 13h30 jusqu'à 19h, le samedi de 14h à 20h et le dimanche de 14h à 20h.
Ah, oh, très bien.
Pas de souci.
Merci. Pour conclure cette interview, je rappelle qu'on recevait Vincent Karuba Diboubac du Hacker Lab. Donc, je vais vous laisser redonner les coordonnées.
Alors, le Hacker Lab se situe au 1118 rue de Cocherelle, 27000 Évreux. Vous pouvez nous retrouver sur notre site hackerlab.fr, donc hackerlab.fr, sur notre page Facebook, l'URL Facebook / hackerlab, pareil, il y a des liens de l'un vers l'autre dans les deux sens, donc c'est bien. Sur le site, vous aurez plutôt toutes les infos pratiques, comment venir, comment s'inscrire, où sont les documents pour s'inscrire, comment nous contacter, etc. Et sur le Facebook, il y aura plutôt le fil d'actualité avec les photos de l'avancement et ce qui se passe, les événements qu'on met en place. Voilà.
Mais on vous remercie d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur le système D et les Fab Labs.
Ben, merci à vous.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spin. of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees, the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him, they can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. The fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, oh, oh.
Les aventures du narwalo, c'est dans Ozone Libre.
L'île était une fois au nord des eaux de France, du nord, une fois au pays des corons, des maroilles et des frites à volonté, une fois entre deux braderies des pites et Angelina, une fois le narwalo, une fois de trop ronfle à tue-tête de lit. Sa femme, la réfrigérante Arlette Tombal, et sa femme, la ravissante Fantomate Batave, s'unissent à sa fille, l'omnicompétente Yodente, et aux extraterrestres Moulmou, le souple et mou, et Doudour, le tendre et dur, pour retrouver le futé, affûté, affublé d'un sombrero de la mer, Michel Thor, Bob Renard. Celui-ci a dérobé les contenus de la tontine de Côte d'Ivoire, d'Evreux, ainsi que le sac à Arlette, et le contenu du sac à Arlette, dont les fameux rouges à lèvres magiques qui permettraient de décomatifier le narwalo.
Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, qu'allons-nous devenir? Comment qu'allons-nous retrouver ce rusé vil goupil?
Pas de rage, pas de désespoir. Laissez-moi renifler sa trace grâce à mes drones renifleurs spécialement élaborés pour cette occasion par Google Sniffer, à base de logiciels libérés, délivrés et de bouteilles d'eau sèche recyclées.
Bonne idée, doux, grosse dinde dure.
Vite mou, dépêchons-nous mou, tous à l'eau mou, en pédalo mou.
Ça sent le fennec, nous avons l'odeur sans le bruit. Direction plein nord, prenez vos caouets et vos moon boots. Qui c'est qui pédale? Il en faut un qui se dédie. Allez, Fantomas, tu te dédies. Branchons le pédalo radiocassette auto-reverse et c'est parti la musique.
Sur le pédalo, le super tube de l'été 2013. Sur le pédalo, faut pédaler. Sur le pédalo, faut pédaler. Sur le pédalo, faut pédaler. Sur le pédalo, faut pédaler dans l'eau.
Qui veut prendre le relais? Laissez passer, j'ai les petits papiers sur les pédales. Allez hop là.
Moi je veux bien. Pour faire plaisir, je pédale en chantant. Sur le pédalo, faut pédaler.
Cap Nord, Nord, sortons les voiles pour pédaler plus vite que notre ombre. Jetez vos objets lourds et attachez vos chaussettes de plongée à vos slips de bain douche turque.
Ok, capitaine Dou, tous à la mer dure.
En effet, vous l'avez deviné, la piste olfactive est en vue de nez plein phare breton. Google Sniffer sent le goupil au maroilles et le renard des picons moules. Ne débranchez pas vos appareils à Pocheville et Carbonade. Une mise à jour de Google Sniffer est en cours. N'éteignez pas le pédalo. La fine équipe arrive en gare de l'île Flandre Europe. Oui, les gares se touchent, c'est sale et ça sent l'amour.
Message à caractère informatique et préventif. La contraception, ça sert à pas attraper la maladie des bébés.
Oulala, j'ai pas pris ma contraception encore plus que je sais ce que c'est. C'est grave la maladie des bébés.
Oui, tu risques d'en prendre pour au moins 30 ans. 40 en cas de tanguite, avec en plus un risque de rechute. Mais t'inquiète pas, avec la tête que tu as, tu risques pas grand-chose.
J'ai pourtant un bon entraînement, mais comme il n'y a que des femmes dans la tribu, je n'ai qu'une connaissance limitée de la chose.
De quoi parlez-vous, Mou ? Vous ne vous reproduisez pas par mitose cellulaire, Mou ?
La reproduction sexuée doux, c'est répugnant dur.
Et pourtant, plus c'est dur et répugnant, meilleur c'est.
Message à caractère informatique et préventif. Attention quand même à ne pas attraper la maladie des bébés.
Pendant que le pédalo trip sur fond d'éducation sexuelle et rythmique se poursuit, Bob Renard regagne son terrier qui jette secret sucré salé et planqué, d'où le secret à la base d'un immense terril qui parle ainsi.
Si vous souhaitez entrer dans le QG secret, sucré, salé, caché en plein cœur de ce terril, chargé d'histoire, de malheur et d'émotions populaires, appuyez sur la touche étoile, puis poursuivez par là donc la chanson secrète, sucrée, salée et néanmoins populaire. Pour ne plus entendre ce message, appuyez sur la touche dièse.
La la la, au nord c'était les corons, terre c'était le charbon, le ciel c'était l'horizon, les hommes des mineurs de fond.
Si ça, c'est une bonne chanson, alors moi, je suis un vrai terril de France.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les paroles secrètes façon Pierrot Bachelorette. Mi, 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 mi. Au nord, c'était les biloutes, la bière, c'était l'horizon, le ciel, c'était le picon, les hommes, des pilleurs de fond.
Ok, on arrête les pas frais. J'ai jamais supporté cette chanson. Déjà, on vit donc dans le nord, pas la peine d'insister. Hashtag PSG. Maître Renard, bienvenue chez nous. Sentez-vous chez nous, chez vous. À quoi baba ?
C'est cette année que tu rentres. Je pensais pas te voir cette décennie. Bon, j'en profite pour te présenter nos 12 enfants. Poppy, Papi, Pépi, Pipo, Pipa, Papou, Poapi, Pioupi, Piop, Papé, Pépo et Pépou et Pépo, qui est toujours dans les nuages et qu'on essaie de faire redescendre sur Terre.
Bah, la dernière fois, il y en avait que 9. Il y a Anguille sous cloche. Je subodore un adultérisme serré, sucré, salé, mais néanmoins populaire. D'ailleurs, tu as changé le code de la porte ?
C'est même pas vrai. J'ai attrapé la maladie des bébés congelés, décongelés. Il m'en sort un nouveau tous les 6 mois.
Message à caractère informatif et préventif. Pour des raisons d'hygiène et de confort, ne jamais recongeler un bébé congelé. Et pourtant, des raisons de santé, ne pas trop manger sucré, salé, mais néanmoins populaire.
Ma paupiette de renard, j'ai un cadeau pour toi, ce beau sac à main. Vas-y, ouvre-le.
Oh, un rouge à lèvres, un vocodeur, un Samsung Galaxy Note 7, tout neuf et même pas cramé, et un demi-sandwich à la dinde de Noël.
Ah, content que ça te plaise, ma paupiette. J'ai aussi une solution pour les enfants. Avec les sous de la tontine de Côte d'Ivoire d'Evreux, on va pouvoir les envoyer en colonie à Tombouctou.
Pendant que Bob Renard prépare un coup fumant afin d'envoyer ses 12 enfants en colonie à Tombouctou, il ne se doute pas que la fine équipe composés des Yodentes, Fantomat Batav, Arlette, Doudur et Moulmou est sur la piste d'Itéri secret sucré salé et néanmoins populaire. La pression sur les quijés de Bob Reynard augmente. L'heure dit décomatage du magnifique Narvalo arrive incessamment sous peu. Un rouge à lèvres suffira-t-il à décomatifier ces grands hommes qu'est le Narvalo ? Est-ce que toujours bien raisonnable de vouloir le réveiller ? Le monde ne se porte-t-il pas déjà mieux depuis son sommeil ? Quelle heure est-il à Tombouctou ? Y a-t-il un hiver au Mali ? Et comment se portent Amadou et Mariam ? Pour le savoir, rendez-vous le jeudi 24 novembre à peu de choses près, à la même heure, pour un nouvel épisode du Narvalo. D'ici là, bonne digestion.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Salut monsieur et madame. Aujourd'hui, on va vous proposer une tarte au chocolat du Narvalo. La tarte de chocolat du Narvalo est un dessert végétarien très facile et très bon marché. Et les ingrédients pour 6 personnes, c'est d'abord avoir 70 g de sucre, 4 œufs entiers, 180 g de chocolat noir à cuire, 50 cl de crème fraîche épaisse, pâte sablée, feuilletée ou brisée selon votre goût. Pour plat à tarte de 23 cm de diamètre. La préparation de la recette, d'abord dans une casserole, fait fondre à feu doux le chocolat cassé en morceaux dans deux cuillerées à soupe d'eau jusqu'à obtenir un ensemble lisse. Ajoutez ensuite le sucre et continuez de le mélanger au fouet. Ajoutez les quatre œufs un à un, mélangez toujours au fouet. Et ajoutez la crème fraîche épaisse et mélangez. Tapissez le moule de la pâte à tarte. La piquez et versez la préparation ci-dessous. Mettre au four préchauffé à 180 degrés durant 20 à 25 minutes. Piquez pour voir si c'est cuit selon la convenance. Et on va casser maintenant nos chocolats en petits morceaux. 120 g de chocolat noir.
Il a l'air bien
dur
ce chocolat.
Ah oui, c'est un bon chocolat bien noir. Et après, ajoutez tout le sucre, les 70 grammes. On va le faire fondre d'avoir nos chocolats dans le micro-ondes. Parce que là, on a un petit problème de matériel. Donc on va le faire fondre au micro-ondes.
Voilà.
Et ensuite, on renverse nos 70 g de sucre et on continue de le mélanger au fouet. Et comme on n'a pas de fouet, voilà. Et après avoir mélangé au fouet, après avoir fini de mélanger le sucre et le chocolat, on n'oublie pas de prendre nos œufs, les casser 4, un à un. Voilà. Voilà.
Deux. Voilà. C'est quoi la technique de casser l'œuf avec une fourchette?
3. Et le quatrième. Et toujours continuer à les mélanger. Voilà. Et maintenant, on a notre crème fraîche, bien épaisse. Voilà, 50 centilitres.
C'est tout.
50 centilitres
de crème fraîche.
Voilà, tout est tout. 50 centilitres de crème fraîche épaisse. Oui, tu mets tout. Et tu continues toujours à mélanger. La fourchette et pendant ce temps on va placer notre tarte sur notre plateau dans un plat. On va les piquer avec une fourchette et ensuite après avoir mélangé tout, faut renverser tout le mélange sur la tarte. On a un petit souci avec notre chocolat qui n'est pas bien fondu. Non, on va pas la chauffer. Attends, si on la chauffe, là, elle va cuire.
En fait, quand je tourne, dès que j'ai fini de tourner, on dépose tout de suite. Parce que là, c'est bon, de l'eau à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il se rétracte.
Après, on le met au four à 180 degrés durant 20 à 25 minutes. La première idée. Ce matin, ma première idée était de me rendre très vite à la Maison de la Santé, là où je participe à un atelier d'écriture avec des personnes très gentilles. Cet atelier me permet de ne pas rester isolé et de pouvoir rencontrer des personnes avec qui j'arrive aussi à parler. Et surtout, il me permet d'oublier plein de choses que je vis et que je traverse. Je remercie toute l'équipe de cet atelier ainsi que ses participants, sans oublier la passe et respire pour m'avoir permis de participer à cet atelier. Que Dieu les bénisse.
Un conte chinois, la légende du serpent blanc. Un esprit sous l'apparence d'un serpent blanc est sauvé par un homme et fait vœu de lui rendre son bienfait dans une existence ultérieure. Avec un esprit, lui à l'apparence d'un serpent vert plus petit, devenu son compagnon, il médite durant un millier d'années. Les deux serpents acquièrent alors des pouvoirs magiques et prennent la forme de deux jeunes femmes. Le serpent blanc se met à la recherche de la réincarnation de son bienfaiteur et apprend, grâce à l'intuition que lui a conférée la méditation, qu'il se nomme Xu Xian, qu'il est peu fortuné et qu'il tient près de Hongzhou une petite officine d'apothicaire. Les deux femmes s'en vont flâner autour du lac de l'Ouest, lieu de promenade favori des habitants du cru, et finissent par le rencontrer. Pour engager la conversation, voyant que le jeune homme tient à la main un parapluie, elles usent de leur pouvoir pour faire pleuvoir. Galant, il offre de les raccompagner. Le serpent blanc se présente sous le nom de Bé Suzhen, fille d'une famille riche, et introduit le serpent vert sous le nom de Xiao King, sa servante. Su Xian et Bé Suzhen finissent par convoler, et la pharmacie du jeune homme prospère grâce à la magie du serpent. Et bientôt, un héritier s'annonce. Tout semble aller pour le mieux, mais un jour, un moine Xu Xian croise un moine bouddhiste nommé Fa He, qui détecte au premier regard, une aura excessivement yin qui pour lui est le signe que le jeune homme côtoie un esprit. Il prévient du danger le jeune homme pour sa santé, mais Xu Xian, amoureux, ne veut rien savoir. La fête des bateaux dragons approchant, le moine donne alors à Xu Xian une flasque de vin soufré pour sa femme enceinte, boisson bue traditionnellement durant cette fête pour prévenir les maladies. Xuxian réussit à faire boire à Bessouzen un peu de vin malgré ses tentatives de refus. Vaincue par la force de la potion, elle se montre sous sa vraie forme, ce qui va choquer son mari et le tuer sur le coup. Bessouzen s'en va, au péril de sa vie, sur le mont Kunlun, où résident les divinités taoïstes pour quérir auprès du dieu du pic austral une potion magique. Elle parvient ainsi à ressusciter Xuxian, mais le moine Fae, bien décidé à débarrasser la ville du serpent, enlève l'apothicaire lors de l'une de ses expéditions d'herboristes et l'enferme dans le temple de la montagne d'or. Usant de leur magie, Bessouzen et Xiao King essaient de faire sortir le kidnappeur et sa victime en inondant le temple. Mais pendant qu'ils inondent le temple, l'accouchement commence, ce qui diminue les pouvoirs de Bessouzen. Les deux esprits perdent alors le contrôle de l'inondation, ce qui va entraîner la rupture d'un pont et pas mal de victimes. Ce qui attirera sur le serpent une punition divine et qui affaiblira Bessouzen, ce qui permettra au moine de la capturer dans un bol à aumône. Je ne sais pas ce que c'est. Il fait surgir sur elle la pagode du dieu du pic du tonnerre, je ne sais pas non plus ce que c'est, ce qui permettra au moine d'emprisonner Bessouzen dans les fondations du temple de la montagne d'or. Et comme fallait un happy end, plusieurs années plus tard, son fils, puisqu'elle a accouché, sera ramené à son père par sa servante, Cao King, et qui passera avec succès les examens impériaux et parviendra à délivrer sa mère grâce à un rituel religieux. Voilà, c'est très résumé.
Ça terminait bien quand même, cette histoire.
Oui, ça se finit bien, c'est Disney.
Un autre texte à vous, Stéphane.
Alors, la première idée. La première idée qui me vient en tête, là, tout de suite, maintenant, à l'instant, rien. Le néant, le vide, l'encéphalogramme plat, comme si j'avais le cerveau d'un candidat de télé-réalité ou d'un électeur du FN. Les idées, j'en ai tout le temps. Puis là, boum, dès qu'on me demande, plus rien. Ça doit être ça, l'esprit de contradiction. Pareil, quand on me demande ce que je veux faire, à ce moment-là, je veux rien faire. Mais alors, rien du tout. C'est ça, j'ai l'esprit de contradiction. En clair, je suis chiant. Suffit qu'on me demande ou qu'on me propose quelque chose pour que, aussitôt, j'ai pas envie de le faire ou de faire autre chose. Ça, c'est chiant, oui, et c'est nul. Ça peut même être dangereux. Imaginez quelqu'un au bord d'une falaise qui me dit « Au secours, aidez-moi, je vais tomber, attrapez-moi. » Non. Là, j'aurais pas envie de la rattraper, la pauvre personne, et je suis désolé pour elle. En fait, cet état d'esprit est même totalement débile. Il a suffi qu'on me dise que la vie est belle pour que j'aie une vie de merde. Du coup, je me dis ce qu'il me faudrait maintenant, c'est un ennemi, mais un vrai. Quelqu'un qui me souhaiterait sincèrement une vie pourrie et tous les malheurs du monde.
Alors pour la minute du pôle, comme on est dans le thème du système D, moi je suis allée rechercher des petites astuces de grand-mère. Alors c'est vrai que l'hiver arrivant, mais quelle galère de s'énerver dès le matin pour dégivrer son pare-brise. C'est le même rituel qui redémarre pour plusieurs mois. Démarrer la voiture et s'acharner à coups de raclette pour faire disparaître le givre. Oubliez ces moments désagréables, je vais vous donner mes astuces de grand-mère. Alors plutôt que d'avoir à dégivrer, pourquoi ne pas prévoir ? Alors, ma petite astuce, c'est de remplir un collant ou une chaussette de gros sel et racler la surface de votre pare-brise avant la nuit. La fine pellicule de sel déposée sur le verre empêchera l'adhérence du givre. Et encore une astuce plus naturelle consiste à frotter les vitres et le pare-brise du véhicule avec deux demi-pommes de terre crues ou deux demi-oignons. Les propriétés naturelles de ces deux aliments éviteront au givre de se former. C'est pas magique, ça ? Par contre, si jamais le gel vous surprend, il n'y a rien de bien compliqué. Vous pouvez aussi mélanger de l'alcool ménager avec de l'eau ou du vinaigre et vaporiser le mélange généreusement sur votre véhicule. Le givre disparaît sous vos yeux. Voilà pour ma petite astuce.
Et maintenant, nous en arrivons à la conclusion de la journée, du mois. Nous vous espérons plus débrouillard suite à cette heure passée en notre compagnie et que ça vous a été profitable. Nous remercions Arcœur Lab d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, ainsi que l'équipe de Principe Actif. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur le site www.principeactif.net. Notre prochaine émission est le jeudi 24 novembre, toujours de 12h30 à 13h30. D'ici là, demerzinzic et portez-vous bien. Si on vous dit système D, à quoi pensez-vous ?
Système débrouille.
Tout à fait, et vous avez
une idée plus précise du système des bruits.
Bah, les foires à tout, l'échange, enfin le troc, tout ce truc-là. C'est ça.
Le système des, chacun se démerde en étant poli.
Système D, bah, débrouille.
Oui, c'est-à-dire, vous avez une idée plus précise de débrouille?
On essaie de trouver des solutions quand on n'a pas ce qu'il faut.
Oui. C'est de savoir se débrouiller pour un système D.
Vous?
Système débrouille.
Système des merdes.
Oui.
C'est-à-dire?
Oui.
Se débrouille.
D'accord. Mais pour débrouiller...
Dans tous les cas de figure de la vie.
D'accord.
Je ne sais pas du tout. Débrouille, quoi, le... Voilà, ouais.
Système D, système débrouille, système bricolage, système voisinage, on aide un voisin à faire ses courses, à faire du repassage, à l'aider.
Exactement, c'est ça. Alors, ce serait quoi le système des merdes?
Chacun pour soi, quoi, en fait. Je pense à ça, quoi. Après, voilà, quoi, c'est tout. Je vois pas autre chose. Système des merdes. Ouais.
Et auriez-vous une astuce à partager, justement?
Une astuce, voilà. Si je la connaissais, je serais très contente.
Ça peut être un système D de réparer quelque chose,
Je sais que ça se fait dans certaines villes entre voisins, s'ils se rendent des services. Pour moi, ça, c'est le système D, quoi. Mais malheureusement, où j'habite, c'est pas évident, c'est pas facile. Oui.
Pas vraiment, là, sur le coude, vous me prenez comme ça au dépourvu, mais bon, c'est le principe, oui.
Voilà, c'est le but, ça.
Vous n'avez pas l'astuce partagée qui vous vient à l'esprit?
Ça, j'en sais rien, faut voir. Sur quoi?
Sur
la débrouille, quelque chose qui vous vient en tête.
Ou alors simplement réparer quelque chose. Si vous avez...
On fait des réparations, des fois, oui, ça, il y a des systèmes, il faut prendre des systèmes pour arriver à accéder à la chose ou pas, je sais pas.
Oui, système D.
Une astuce. Non, j'en ai pas.
Même de la cuisine, c'est débrouiller la cuisine, tout ça.
Non. Je suis désolée.
C'est pas grave, hein, merci beaucoup.
Non, non, bah non, à mon orge maintenant, qu'est-ce que vous voulez,
hein? D'une astuce de débrouille, de système D, de réparation.
Là, ça me vient pas, système D.
Lorsqu'on fait les courses, qu'on n'a pas de voiture. C'est
bon, bah, à pied, tiens, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est système D alors?
Non,
c'est peut-être plus débrouillard que ça.
Plus débrouillard que ça. Je ne suis pas occupé, hein, parce que ça va être pas exploitable. Non, les astuces, c'est compulser les pubs et puis aller au plus intéressant. Ça, c'est le système D. Ça, c'est ce que je fais quand même.
La cuisine, parce que moi, je cuisine pas mal.
Vous avez une petite anecdote par rapport à la cuisine?
Je suis assez bonne cuisinière, disons. Mes petits-enfants, ils me disent, tiens, mamie, on vient manger chez toi. Parce que les anecdotes, des fois, c'est des trucs... Le phare breton, parce que je l'ai appris en Bretagne. Et puis, beaucoup de cuisine, mais je sais pas l'anecdote. Qu'est-ce qui est bon? C'est un bon camembert chaud.
Et comment vous le faites, ce camembert, alors?
Vous le faites... dans la boîte, comme ils disent, ou alors le mont d'or aussi, parce que le mont d'or, vous le faites chauffer au four et vous prenez des croûtons de pain puis vous mangez ça avec. C'est très bon. Sinon, c'est l'entraide qui aide, qui fait beaucoup. Ouais, parce que malheureusement mon mari maintenant est handicapé aussi. L'entraide, c'est cordial, la cordialité fait beaucoup, je crois.